Le cours d'aujourd'hui saura certainement stimuler votre réflexion, puisqu'on va parler de sexe, de sexualité, etc. Il ne s'agit pas pour moi de me substituer aux profs de biologie ou de SVT qui font des cours là-dessus. Il y a des cours entiers sur la biologie sexuelle des êtres vivants. Et voilà, moi je vais vous faire un petit survol. L'objectif étant d'arriver à discuter de quelques bonnes nouvelles, notamment concernant les humains. Et ce cours s'inscrit également, je tiens à le dire, dans le cadre d'une autre TC qui s'appelle Égalité homme-femme ou femme-homme. Ou femme-homme, très bien. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure que homme et femme sont des notions qui peuvent être grandement discutées. Et cette TC, donc, elle se déroule en trois fois. Et donc, il y a ce soir, je devais faire cours pour eux, mais en fait, j'ai cours ici, donc je leur ai proposé de venir. Donc, merci à elle et eux d'être venus. Et il y aura demain et après-demain. Voilà. Vous savez que ces discussions-là, en général, elles ont posé un grave problème dans la pensée moderne, on va dire, au moins en France, parce que vous aviez d'un côté les courants dits féministes, à qui on peut rendre hommage. Il y a eu plusieurs vagues. Certains disent qu'il y a eu trois vagues différentes. Je ne rentre pas dans le détail maintenant. Mais, et dans les courants féministes, il y avait parfois certains discours qui pouvaient être proto ou pseudo-scientifiques. Et puis, de l'autre côté, vous aviez des gens qui défendaient des courants qui venaient plutôt, on va dire, de la sociobiologie. Peut-être vous connaissez ces mouvements-là de Edward O. Wilson et des gens comme ça, et qui ont souvent été qualifiés, malgré une certaine rigueur dans certains de leurs procédés, qualifiés plutôt de nouvelle droite, si vous voulez. Donc il y avait une sorte de clivage un peu politique entre ces deux courants, et j'espère que ce que je vous raconterai aujourd'hui posera une brique de réconciliation sous l'angle de la démarche scientifique, mais avec un regard entre guillemets moral, c'est-à-dire avec des implications possibles sur le plan moral dans la vie de tous les jours, entre individus humains au moins. Et après, on verra que si on veut élargir la question morale à d'autres individus non humains, on discutera ça au cours numéro 12 sur la philo morale expérimentale. Alors voilà, le plan que j'ai fait, c'est celui-ci. Je vais vous parler du sexe et de la sexualité au plan évolutif. Alors normalement, j'aurais dû faire ce cours après celui sur la théorie de l'évolution, mais je fais appel à vos souvenirs d'étudiants ou d'élèves de lycée. Normalement, vous avez vu les bases du darwinisme, mais je vous redonnerai quelques petites touches de ça. Et puis, le cours dans deux semaines viendra peut-être éclaircir certains points qui vous manquent. Le deuxième point portera plus spécifiquement sur les mammifères, mais ce sera assez rapide, hein, tout ça. Et puis évidemment, on va arriver au sujet qui vous préoccupe peut-être le plus, celui des humains. Et dedans, je parlerai de l'héritage évolutif. J'inventerai un petit système que j'ai appelé le triangle sexuation, sexualité et genre. Et puis, je pourrais mettre un S à chacun de ces mots. Et puis, quelques arguments tox, ce que j'appelle des arguments tox, c'est-à-dire des argumentaires moisis, des argumentaires fallacieux. Des petites trames argumentatives qu'on retrouve très souvent quand on discute de ces questions, notamment autour des questions de genre, parce que les questions de genre ont été fortement mises en avant depuis 2010, avec beaucoup de houle, comme vous pouvez peut-être le savoir si vous avez suivi un petit peu les médias. Voilà. Et je finirai par quelques bonnes nouvelles que je vous laisserai méditer. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Alors, sexe et sexualité au plan évolutif, il faudrait faire des heures et des heures pour détailler le nombre de procédés qui ont été inventés par les êtres vivants pour arriver à se reproduire. Et il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, j'ai mis ça un peu sous forme de boutade, mais il y a des types de reproduction asexuée qui sont tout à fait efficaces et qui sont souvent beaucoup plus simples. Et alors j'en ai mis quelques-uns pour vous stimuler, pour vous donner envie de chercher l'architomie, la paratomie, le bourgeonnement, la frustulation. La frustulation, j'aime bien, les méduses font ça, elles balancent des petits bouts, et puis le petit bout devient une autre méduse. Il y a aussi ce que je vous ai mis en bas là, ce que souvent on voit dans les westerns, vous savez, ces espèces de petits buissons là, qui roulent, au moment où il y en a deux qui vont se tirer dessus, il y a toujours un petit buisson qui roule. Ces buissons s'appellent des virevoltants, tumbleweed en anglais. Il y a plusieurs espèces dedans, mais il y a des amarantes, il y en a plein, et elles ont un mode de reproduction qui est tout à fait étonnant, et d'ailleurs écologiquement dramatique, puisqu'elles pompent plein de flotte dans les ressources à l'endroit où elles s'installent. Peu importe, il y en a beaucoup, il y a la parthénogenèse aussi, qui est une façon de se reproduire, qui consiste à ne laisser se développer que l'ovule, et en fait l'individu reproduit juste avec un seul gamète, l'ovule, un autre individu. Les dragons de Komodo fonctionnent comme ça, certains lézards, il y a pas mal d'espèces qui arrivent à faire ça, pas les humains. Le sexe, c'est une innovation. On parle d'innovation en biologie évolutive, c'est-à-dire quand une nouvelle propriété apparaît, et que son porteur se révèle avantagé dans la course à la reproduction. Et donc, de fait, puisqu'il est, il est avantagé dans la course à la reproduction, eh ben, ça, il aura plus de descendance. Et comme il y a plus de descendance, il y a plus de gens qui sont porteurs de cette innovation. Et ainsi, les innovations se répliquent et se répandent. Alors, l'invention du sexe s'est faite chez les eucaryotes. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Vous connaissez qu'il y a, les cellules qui ont un noyau et avec des mitochondries. Et en gros, chez les eucaryotes, vous avez des phases bien spécifiques. Puis vous avez étudié, non, c'est au programme de première, il me semble, hein, phase diploïde, puis vous avez une méiose, puis après il y a une phase haploïde, donc on crée un gamète, ce qu'on appelle un gamète, qui contient la moitié de l'information génétique, et puis fécondation des deux gamètes, et hop, et c'est parti pour un nouvel individu. Alors l'atout de la reproduction sexuée, c'est que ça permet un brassage génétique absolument génial, bien plus important que pouvait le réaliser la reproduction dite asexuée ou les reproductions dites asexuées. Et de fait, ça a rendu les espèces qui pratiquaient cette méthode-là bien plus efficaces dans la survie dans ce monde impitoyable. Et vous savez que la sélection naturelle, c'est un peu comme un tamis, si vous voulez, c'est comme une piste avec plein de trous, et puis les individus qui sont pas super bien adaptés à leur environnement ou qui portent une innovation qui les freine dans la reproduction se retrouvent un peu disqualifiés dans la course à la reproduction, et donc leurs caractéristiques à eux s'éteignent ou ont tendance à s'éteindre, tandis que d'autres arrivent à s'en sortir. Et donc, les espèces qu'on voit aujourd'hui sont des espèces qui sont adaptées à leur milieu. Alors, n'y voyez pas, on en reparlera. N'y voyez pas supériorité de telle ou telle espèce. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que les espèces sont adaptées à leur milieu, parfois de façon tellement ténue et tellement fine qu'il suffit d'une toute petite variation de leur milieu pour que l'espèce s'éteigne. Vous connaissez des espèces qui sont comme ça au bord de l'extinction. Hein, je ne rentre pas dans le détail, mais vous connaissez certainement au moins le panda. Enfin, le panda géant, quoi, parce qu'il y a plusieurs sortes de pandas. Il y a un petit panda roux, enfin bon, peu importe. Il y a plein de pandas, il y a pas plein de pandas, il y a trois grandes catégories de pandas. Alors, il y a des conventions. Il faut savoir qu'en biologie, et puis souvent en science, on pose des conventions pour pouvoir s'y retrouver. On fait ça aussi en sciences politiques. Hein, quand on pose des conventions, en sciences politiques, on va parler de classe sociale, par exemple. Ça n'existe pas en tant que telle, une classe sociale, mais ça permet de mettre un filet sur la réalité et de tirer des informations. Alors, on s'est rendu compte que c'était très pratique de raisonner sur la base de typage de sexe. Et alors, c'est là que le bordel commence déjà, parce que on s'entend pas toujours sur comment on va typer les sexes, comment on va définir les sexes. Est-ce que c'est par l'anisogamie, je vais vous détailler ça, par l'anatomie ou par la génétique? Et en fait, les trois ont leur intérêt. Alors, l'anisogamie, par convention, on va nommer les individus femelles, ceux qui produisent des gamètes plus volumineux, généralement beaucoup plus volumineux, contenant les organites nécessaires au fonctionnement cellulaire et au développement après la fécondation. Alors, souvent, il y a pas mal de choses dans ces gamètes, et puis tout autour, et puis parfois, ça va jusqu'à élaborer même une forme de coquille, et puis ça va jusqu'à des formes, des poches qui permettent de porter des petits... Enfin bref, il y a plein de choses qui se surrajoutent à ça. Et parfois, on pourrait même penser que l'investissement parental peut faire partie aussi de cette coquille d'ensemble autour du gamète. Et puis, on définit par convention, toujours convention, hein, comme mâle, les organismes qui produisent des gamètes plus petits et motiles qui se promènent et en grande quantité. Les fameux spermatozoïdes que vous connaissez. Le plus gros gamète du monde actuel, j'ai mis actuel parce que dans l'ancien temps, il y a très longtemps, il y avait un truc bien plus gros que l'autruche qui faisait un œuf bien plus gros. Mais voilà, voici le plus gros gamète du monde actuel, le jaune d'œuf d'autruche. Quand vous mangez un jaune d'œuf de poule, vous mangez un gamète de poule. Et voici à côté l'un des plus grands fournisseurs de spermatozoïdes, le merion superbe, qui est très joli, qui est à peu près de la taille d'une main, et qui produit une quantité astronomique de spermatozoïdes. C'en est assez stupéfiant d'ailleurs. Ça stupéfie sans arrêt les biologistes qui travaillent sur lui. Et puis, par l'anatomie, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu des inventions qui se sont surrajoutées. Alors, je vous ai mis, par exemple, ce qu'on appelle le tractus sexuel, c'est-à-dire le chemin que vont emprunter les gamètes pour arriver au stade de la fécondation. Eh ben, il y a eu invention des ovaires, des oviductes, des trompes de Fallope, des diverses protections de l'ovule, etc., ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la coquille. Le lait maternel aussi est une innovation tout à fait intéressante auquel beaucoup d'espèces ont souscrit. Et puis d'éventuels vagins, pas toujours, il y a des espèces qui n'ont pas de vagin. Des femelles d'espèces qui n'ont pas de vagin. Il y a certains insectes qui, d'ailleurs, perforent leur partenaire n'importe où, puis ça marche quand même, enfin plus ou moins, enfin des fois ça marche pas très bien. Il y a des punaises qui font des trucs absolument ignobles comme ça. Et puis côté mâle, je vous rappelle que ce sont toujours des conventions, hein, il y a l'invention de spermiducs, c'est-à-dire de trucs qui portent les spermatozoïdes, avec parfois, mais pas toujours, un pénis. Beaucoup d'oiseaux n'ont pas de pénis, ou alors ont des pseudo-pénis. Alors, la discussion a beaucoup porté sur qu'est-ce qui amène à une telle variété de formes de vagin, de formes d'ovaire, de formes de pénis, etc. Il semble que, je m'appuie là sur les travaux de Penici, Elisabeth Penici, dans Science, cette année encore, il y a eu des travaux qui commencent à montrer que ce qui dicte la complexité des organes et des tractus sexuels, c'est probablement la volonté des femelles d'éviter des coïts qu'elles ne souhaitent pas. Et en fait, celles qui arrivent à freiner les coïts qu'elles ne souhaitent pas, par des innovations diverses, par des vagins tordus, par des trucs comme ça, eh ben, elles ont eu une plus grande descendance. Et c'est ce genre de choses qui fait que, petit à petit, des caractères qui étaient innovants pour certains individus prennent le pas sur d'autres. Et donc, vous avez des trucs parfois très, très tordus. Mais il semble donc que ce soit, si je voulais faire simplement, c'est les vagins qui dictent la forme des pénis, si vous voulez. On en est là en ce moment. Il semble que ce soit ça. Soit la complexité des vagins qui entraîne la complexité des pénis. Une coévolution des deux. Et puis, il y a la génétique. Alors, la génétique, c'est un joyeux merdier, hein, c'est un immense merdier. On distingue toujours par convention des chromosomes sexuels. Et les chromosomes sexuels, alors, ça dépend des espèces auxquelles on se penche. Je ne veux pas être trop long là-dessus, mais chez les humains, on parle souvent de femelles XX ou mâles, on parle de XY, vous savez ça, hein. Ça, c'est chez les mammifères. Depuis 1905, on a pris cette convention. Chez les oiseaux, c'est pas pareil. Voilà. Chez les drosophiles, c'est encore différent. Parfois, c'est plus compliqué parce que les chromosomes sexuels sont plus nombreux. Et l'ornithorynque, par exemple, il en a 5 paires. Donc, c'est compliqué. Vous avez des systèmes comme les abeilles qui sont dites haplodiploïdes. Je ne veux pas rentrer dans le détail sur ça, mais vous savez peut-être que chez les abeilles, quand elles se reproduisent, enfin, quand la reine pond. Vous voulez le détail, non, je ne sais pas si ça vous intéresse beaucoup, mais la reine, celle qu'on appelle la reine, avec un imaginaire un peu suzerain, reine, etc., la reine s'envole pour un vol nuptial à un moment bien précis, et puis hop, il y a plein de mâles de partout qui rappliquent et qui essayent de la féconder, et puis ils se mettent à la queue leu-leu presque, et puis alors le premier, il pénètre et il déverse son sperme, et puis quand il se retire, il y a la moitié de son appareil génital qui s'arrache, donc lui, il meurt lamentablement. Le suivant arrive, il retire les parties génitales de l'autre pour prendre la suite, etc. Et donc la reine fait comme ça une collection de spermatozoïdes de différents mâles. Et ensuite, elle revient à la ruche et pendant 6 ans, elle va pouvoir pondre à un rythme absolument effréné, notamment l'été, c'est presque un œuf par seconde qu'elle réalise comme ça dans des cellules. Et puis les œufs qui sont fécondés par des spermatozoïdes, les œufs qu'elle fait elle, qui ont été fécondés par des spermatozoïdes, donnent des abeilles ouvrières. Et celles qui n'ont pas été fécondées, qui ne sont que des ovules non fécondés, donc, donnent des mâles. Et c'est ce qu'on appelle parfois des bourdons, mais qui ne sont pas les gros bourdons comme ça. Hein, c'est les abeilles mâles, on les appelle aussi des bourdons. Et donc, vous avez des individus qui sont diploïdes et des individus qui sont haploïdes. Bon, c'est tout à fait stupéfiant, mais c'est comme ça. Et puis, vous avez des hermaphrodites qui sont dits permanents. Pensez aux escargots, qui portent les caractéristiques sexuelles et les chromosomes sexuels double, si vous voulez. Et puis, vous en avez qui sont séquentiels. Le plus connu, c'est probablement celui-ci, que vous avez peut-être déjà vu dans un dessin animé, et qui, lui, peut changer au cours du temps. Voilà. Des fois, il est mâle, des fois, il est femelle, quand ça l'arrange. Enfin, ça dépend de pas mal de paramètres. Alors, les types sexuels, chez les mammifères, généralement, on en pose 2. Mais chez les paramécies, ça peut être 4. Vous avez des protozoaires comme la Stylonychia, on en compte 48 différents. Alors chez les champignons, c'est le bordel complet, quoi. C'est des centaines de types sexuels différents, c'est le festival. Alors dans le mélange, dans la nature, les mélanges de types existent. Et même pour des espèces qui ne sont pas genre des vers annulaires ou des petits protozoaires, hein. Je vous ai mis ici des exemples de ce qu'on appelle les gynandromorphes, c'est-à-dire des individus qui sont porteurs d'une moitié de caractéristiques de mâle et d'une moitié de caractéristiques femelles. Là, vous voyez un homard qui est comme ça. Là, vous voyez un argus bleu, qui est bleu d'un côté, donc, et puis pas bleu de l'autre. Là, vous avez une pouque ou une colle, un mélange des deux. Voilà, des gynandromorphes. Ça arrive. Qu'est-ce qui fait que le type sexuel se détermine? Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, ça dépend des espèces. Vous avez le facteur chromosomique sexuel, bien évidemment, qui va définir pour la plupart des espèces à quel type elle appartient. Gardez toujours en tête que le type, c'est une catégorie. Hein. C'est une catégorie mentale, mais qui est très fonctionnelle pour ce qu'on veut raconter là. Et puis, il y a des facteurs environnementaux qui jouent. Et vous avez, par exemple, la température du milieu qui peut compter. S'il fait très chaud, alors il y aura plus de femelles. S'il fait plus froid, il y aura plus de mâles. Il y a pas mal de poissons qui fonctionnent comme ça. Il y a le sex ratio. Si on tombe dans un milieu où il y a beaucoup de mâles, hop, eh ben, il y a des individus qui vont se transformer en femelles. Il y a des hydres qui fonctionnent comme ça. Vous avez le sexe du partenaire. Je pense à... Il y a un coquillage comme ça qui tombe, pouf, quand il tombe sur une femelle, pouf, il se transforme en mâle. Quand il tombe sur un mâle, pouf, il se transforme en femelle. Enfin, c'est assez marrant. C'est assez rigolo. Le facteur social aussi, etc. Bon, bref. Parfois, il y a plusieurs facteurs en même temps, ce qui fait une joyeuse soupe. Et là, je vous parle que des espèces qui sont faciles d'accès. On va dire que si vous rentrez dans les champignons, c'est complètement dingue. Chez les archées, c'est encore plus fou. Voilà. Ici, je vous indique quand même, en passant, que quand vous mangez un champignon, le champignon, c'est ça. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs. Hein. Le champignon, c'est l'être souterrain filaire qui est dessous. Et au moment de la reproduction, en fait, il fait sortir ses organes génitaux. Ce qui fait que quand vous mangez une omelette, vous mangez les organes génitaux du champignon. Vous ne mangez pas le champignon. Vous mangez le... Ça donne un certain goût à... ça donne un petit goût à la poêlée de champignons. Voilà. Alors, c'est chez les mammifères, je vous l'ai déjà dit. En gros, deux. Je dis en gros, la convention, c'est deux. D'accord ? Mais on verra tout à l'heure qu'il y a parfois des intersexuations, comme on dit. Alors, les comportements sexuels... Si on aborde la question des comportements sexuels, il faut éviter un biais qui est très courant quand on pose des questions morales à partir des sciences. C'est ce qu'on appelle le is-out fallacy en anglais, c'est-à-dire l'erreur de être entre être et devoir, si vous voulez. Cette erreur qu'on appelle parfois aussi la guillotine de Hume, parce que c'est pris chez Hume, David Hume, l'Écossais, qui a fait un bouquin en 1739 qui s'appelle Le traité de la nature humaine. Dedans, il explique ça, il dit attention, c'est pas parce que quelque chose est comme ça dans la nature que c'est bien. La nature, elle est comme elle est, quoi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en tirer des conclusions. C'est des choses qu'aurait dû garder en mémoire des courants que vous connaissez, comme les courants national-socialistes allemands, par exemple, qui ont essayé de tirer de la nature des injonctions. La nature étant comme ça, et les plus forts étant souvent dominants dans un groupe social, alors il faudrait qu'il y ait un peuple dominant sur les autres, etc. Donc ne tirons pas de la nature des implications morales, mais par contre, il faut connaître la nature, connaître son fonctionnement pour pouvoir voir comment nous, après, dans nos vies en société, on s'empare de ces questions-là. Et pour, je vous donne un exemple tout bête. Dans la nature, je prends souvent l'exemple de la girafe parce que j'ai assisté, pas moi personnellement, mais j'ai vu la vidéo de ça. J'ai vu la vidéo d'un girafeau qui la girafe est en train de girafer, je ne sais pas comment on peut dire, on ne dit pas véler ou elle fait un petit girafon, quoi, pouf, pouf, et le girafon, il se casse la gueule de haut, quand même, plaf, il tombe comme une bouse et il tombe par terre. Et normalement, la girafe, elle vient, puis elle tape dessus, elle le lèche un peu et tout, puis au bout d'un moment, il se relève, et puis il se lève, il boitille un petit peu, puis après il la suit, puis c'est parti pour la vie, quoi. Et puis il arrive des fois où il se relève pas, le petit girafeau, et moi j'ai vu cette vidéo là où le girafeau il se relève pas, et la girafe elle est à côté, elle essaie de le lever, elle essaie de le pousser, elle reste une heure et demie, deux heures, elle essaye, quoi. Puis au bout d'un moment, elle s'en va, quoi, parce que sinon elle va mourir de faim si elle reste à côté de son petit, donc au bout d'un moment elle l'abandonne. Et donc la nature est ainsi faite, si on peut dire. C'est pas pour autant que c'est bien, vous voyez. Heureusement qu'on fait pas ça. Moi, je suis bien content que des enfants qui naissent et qui respirent pas, on les fout dans une couveuse, on leur met un respirateur, on essaie de les aider. Des enfants qui naissent prématurés, on a développé toute une gamme de choses pour compenser ça. Donc on n'a pas suivi l'ordre de la nature, et c'est une bonne chose de pas suivre l'ordre de la nature. La nature, elle a pas d'ordre à donner. Ça revient au premier cours qu'on a discuté. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de sens profond greffé dans l'évolution des processus. Il ne faut pas tirer des connaissances naturelles, on va dire, en tout cas vous voyez, physico-chimico-biologiques, des implications morales directes. Ce n'est pas possible de faire ça, ça serait une sacrée erreur. La nature n'est pas bonne école, si vous voulez. Donc ce qui est n'implique pas ce qui doit être. Je ne vais pas le redire, mais ça sera le fil conducteur de tout ce que je vais vous raconter. Ce n'est pas parce que c'est comme ça que c'est forcément bien, quoi. La nature n'est pas bonne en soi, à moins de se dire que la nature est une création de Dieu, mais auquel cas on n'est plus en science, quoi. On est en théologie, quoi. Et on ne fait pas un cours de théologie ici, bien au contraire. Les comportements sexuels sont extrêmement variés, je vous dis ça, parce qu'il y a des comportements sexuels qui sont plutôt poussifs chez les mammifères, puis il y a des comportements sexuels plutôt... débordant, si vous voulez. Alors j'ai mis les deux exemples qui sont presque aux antipodes. Les pandas géants qui rament le cake, il faut bien le dire, pour se reproduire. qu'il faut même les stimuler parfois quand on, ouais, c'est assez compliqué pour eux. Mais il faut dire qu'ils ne mangent que des feuilles hyper pauvres, les feuilles de bambou, ils font des petits cigares comme ça, ils ne mangent que ça. Ça leur donne assez de force, juste assez de force pour aller chercher d'autres feuilles de bambou. Puis après, ils se reposent, qu'ils sont un peu fatigués. Et donc, c'est pas l'orgie, quoi, si vous voulez, chez les pandas géants. Par contre, chez Pan Paniscus, que vous connaissez sous le nom de Bonobo, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plutôt le festival, là. Et quasiment tous les comportements sociaux sont régis par des comportements sexuels qui sont ce qu'on pourrait dire pansexuels, c'est-à-dire qu'ils ont les rapports ne dépendent pas du typage sexuel de l'individu qu'ils ont en face d'eux. Sans parler des masturbations, de comportements orogénitaux. Enfin, il y a plein de choses très très intéressantes qui sont réalisées par ces bonobos. Voilà. Pendant longtemps, le rapport sexuel, il y avait un contrôle neurobiologique très strict et il y avait un système, il y a toujours un système pour beaucoup de ces espèces-là, de phéromones sexuelles qui sont à l'œuvre avec des cellules qui captent ces phéromones et qui excitent les individus. Il y a un réflexe de lordose qui se met en place avec une cambrure assez prononcée chez les femelles, certainement qui a été sélectionnée au cours de l'évolution pour rendre plus aisé l'accès au vagin. On voit ça chez les vaches, mais ce n'est pas très visible chez une vache. Hein. Une vache cambrée, ça ne se voit pas beaucoup. Mais chez les chattes, par exemple, ça se voit beaucoup. Une lubrification vaginale, des sensations péniennes, éventuellement clitoridiennes ou vaginales, mais c'est plus rare. On verra ça pour tout à l'heure. Et voilà, ça c'est voilà une lordose de chatte. Voilà une lordose d'éléphant. Ça se voit un peu moins. Ça se voit un peu, quoi. Bon. Là, je vous montre des images pornographiques animalières. Je pense que les éléphants seraient choqués que je monte ça en public sans prévenir. Alors, il y a un phénomène, je ne sais pas si ça vous est déjà venu à l'esprit, mais moi j'ai mis du temps à comprendre que le phénomène qu'on appelle l'œstrus, mais en fait, les humains, j'anticipe un peu sur la suite, mais ils ne sont pas soumis à l'œstrus. L'œstrus, c'est les chaleurs, ce qu'on appelle les chaleurs. Vous connaissez ça si vous avez des chiens, des chats, etc. Voilà, c'est une période durant laquelle une femelle mammifère est fécondable. Et elle a des comportements assez particuliers qui sont liés à la période de fécondation, à la période de fécondité, pardon, et qui encouragent l'accouplement. Alors, des fois, ça se voit vraiment bien, quoi. Chez les chats, ça se voit vraiment, vraiment bien, quoi, par exemple. Et alors, chez certains animaux, l'ovulation est liée à l'acte d'accouplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ovulation sans accouplement, quoi. Les chattes, par exemple, c'est comme ça. Chez d'autres, elle accompagne ou suit l'œstrus, mais pas nécessairement accompagnée d'accouplement. Et les vaches aussi. C'est ce qui fait que si quelqu'un est éleveur de vaches, il faut qu'il surveille à un moment où il y a l'œstrus, quoi. Parce qu'il n'y a pas de signe. C'est pas l'accouplement qui va déclencher ça, quoi. Et chez d'autres, comme les femmes, ou certains simiformes, c'est pas une erreur les deux i dans simiforme, on peut dire simien aussi, mais normalement le terme c'est simiforme. Je pense que c'est notamment certains guenons de certaines espèces de singes. L'ovulation n'est pas déterminée par l'œstrus. Et en fait, on n'a pas de chaleur. Les humains, par exemple, les femelles humaines n'ont pas de chaleur, quoi. Alors le plaisir maintenant, parce que c'est quand même ça qui est intéressant quand même, le plaisir. Alors le plaisir, c'est une innovation qui est relativement récente hein, dans l'histoire des espèces. Et bon, il y a des raisons techniques, hein. Pardon, j'ai un petit peu débordé sur le mot cortex, c'est le cortex qui disparaît là-bas. Mais donc les structures neurales de renforcement positif sont apparues assez tard dans l'évolution, c'est-à-dire des systèmes où vous connaissez ça, hein. vous avez certainement étudié ça, je pense en terminale on vous parle un peu de ça. Hein. Donc le système de, ce qu'on appelle le système de récompense en fait, si vous avez un système de récompense, vous avez tendance à le stimuler, puis à l'entretenir et puis à l'améliorer, etc. Et il y a plusieurs zones du cerveau qui sont à l'œuvre là-dedans, je vous ai mis la liste. L'hypothalamus latéral, le pallidum, le septum, le cortex préfrontal, etc. Et donc, notre espèce est très, très sujette à ces structures neurales de renforcement positif. Quand on mange du chocolat, quand on fait l'amour, il y a plein de manières de stimuler ça. Et alors, l'orgasme. C'est là que chez les espèces, mammifères notamment, c'est assez étonnant de constater cette disparité. C'est pratiquement toujours présent pour les mâles et pratiquement jamais pour les femelles. Ce qui est absolument injuste, mais la nature n'est pas là pour être juste, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle n'est pas là pour être juste. Par contre, nous, on est là pour être juste. Il faut qu'on y réfléchisse, quoi. Et en fait, il est fort probable que le plaisir ait été un avantage pour le porteur de zones érogènes. Vous voyez, si les zones érogènes ont été des mutations à un moment donné, et quand quelqu'un se retrouvait doté d'une zone érogène, je sais pas moi, qui consiste à, je vais dire n'importe quoi, mais imaginez, vous avez une zone érogène sur l'épaule et ça vous fait beaucoup de plaisir quand vous frottez un arbre. Bon, bah, ça ne vous donne pas un avantage sur le plan de la reproduction, quoi. Vous allez rester contre votre arbre et avoir une longue histoire avec votre arbre, quoi. Mais bon, il n'y a pas de descendant, donc c'est fini pour cette mutation, vous voyez. Alors par contre, si vous avez la zone érogène qui est bien placée, ça encourage à l'acte copulatoire, vous voyez. Donc ceux qui ont été porteurs de ça, c'est pour ça que j'ai mis que le processus darwinien fait que les mutations de type érogène ont amené leurs porteurs à plus avoir envie de coïter, quoi. Voilà, ce qui les a avantagés sur le plan reproducteur, et plus, hein, etc. Ça, c'est Darwin classique. Alors maintenant, chez les humains, le plan, c'est ça, hein, héritage évolutif, je vous introduis le triangle, et je vous parle de quelques arguments. Sur le plan d'héritage évolutif, ça, je vous l'ai déjà dit, je le mets en rappel, c'est pour que vous puissiez relire ce diaporama, et pour les étudiants qui sont dans l'ETC droit égalité, c'est égalité femmes-hommes, il y a, sur le site du Cortex, je vous donnerai le lien de toute façon à la fin du cours, sur le site du Cortex, il y a une page qui s'appelle page étudiante, je vous donnerai l'accès, vous pourrez chercher le PDF du cours numéro 8 et vous l'aurez. Hein. Alors une innovation, je vous disais, une innovation, ou une caractéristique, ou même, parfois quand on parle d'innovation, on inclut dedans les comportements, les formes de comportement qu'on développe. Si un individu développe un comportement, ce comportement aura tendance à se répandre si son porteur, ça lui confère un avantage sur le plan reproducteur. Et donc il y a des innovations qui foirent complètement. Je pensais par exemple à un vagin très étroit pour une femelle. Bon ben, au moment de l'accouchement, elle meurt. Pof, terminé quoi. Game over, comme on dit. Donc c'est une innovation qui n'est pas terrible, terrible. Si l'innovation, c'est un pénis énorme pour son porteur, il risque de déchirer son partenaire, voire lui-même de s'endommager et de ne pas avoir descendance non plus. Vous voyez, ça, c'est des cas qui ratent, quoi. C'est des innovations qui ratent. Il y a des innovations qui sont qui portent des noms de pathologies maintenant. Le syndrome de Mayer-Rikotansky-Kusterhauser, c'est une absence congénitale totale ou partielle de vagin et d'utérus, mais avec des trompes et des ovaires normaux. Et c'est vachement difficile à vivre, hein, très clairement. Et ça touche à peu près une fille sur 4000. Alors, je vous précise un truc, parce que j'ai déjà eu cette remarque. Je vais être obligé, à certains moments, d'utiliser le mot fille, garçon ou homme, femme, mais j'espère bien qu'à la fin du cours, vous comprendrez que ce sont des notions que, justement, je souhaite voir diluer le plus possible. D'accord ? Mais pour que ce soit simple, je suis obligé de le faire, sinon ça va m'obliger à faire des périphrases qui sont plutôt coûteuses. Donc, je le dis maintenant, je vous le redirai à d'autres moments. Voilà. Je vous mets les références, comme à chaque fois, en dessous, hein, si vous voulez documenter cette histoire de syndrome de Mayer. Voilà. Et depuis quelques siècles, il faut se rendre compte, c'est bête, j'invente une vanne que je veux faire au cours sur la théorie de l'évolution, mais c'est pas grave, l'humain n'est pratiquement plus soumis à la sélection naturelle. Les histoires, vous savez, de lobe qui va disparaître, ou de petit orteil parce qu'il sert à rien, il va disparaître, tout ça c'est des conceptions que l'on a, qui sont des conceptions assez archaïques de comment fonctionne l'évolution. On appelle ça, pour les biologistes qui sont là, des processus qu'on appellerait lamarckiens au nom de Jean-Baptiste de Lamarck. C'est-à-dire l'idée qu'un individu qui ne se sert pas d'un. Qui se sert plus volontiers, par exemple, d'une girafe qui sert de son cou pour choper des trucs plus grands, bah, ses descendants auront un cou plus grand parce qu'elle a tiré dessus sa mère ou son père, vous voyez. Et ça ne marche pas comme ça. De la même façon, un organe qui ne sert à rien ne sera voué à la disparition que si son porteur est désavantagé dans la course à la reproduction. Mais un lobe de l'oreille, pour l'instant, ça désavantage personne, quoi. Voyez. Ou un petit orteil, ça désavantage personne. Un coccyx ne désavantage personne. C'est ce qui fait d'ailleurs que le coccyx est ce qu'on appelle un éco-vestigial, n'a pas d'autre intérêt que de nous rappeler que nous avons une longue filiation depuis la première cellule, le premier ancêtre commun, qu'on appelle parfois Lucas. Et il y a d'autres trucs comme ça, hein. Vous avez ce qu'on appelle le petit renflement de Darwin ici, on l'appelle comme ça, là. Certains ont ça, ou ce qu'on appelle parfois les oreilles d'elfes, enfin, il y a des trucs comme ça, l'appendice par exemple aussi, sont des éco-vestigiaux. L'humain, lui, depuis quelques centaines d'années, il n'est plus tellement soumis à la sélection naturelle parce qu'il a construit des sociétés qui l'ont quasiment extrait de la prédation d'autres individus non humains, quoi. Et donc, il n'y a plus grand monde qui se fait manger par des tigres. Il reste quand même une petite sélection qui peut se faire à cause de microbes et de bactéries ou de virus qui viennent parfois foutre le bazar. Mais la sélection naturelle ne s'applique pratiquement plus sur les humains.